Cette fois-ci, on revient dans l'histoire, mais l'histoire tient du Canada. On va faire du chemin là-dessus avec Félix Fournier qui est avec nous. En 1987, 31 ans aujourd'hui, on parlait à Washington de l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis qui était adopté. Ça entra en vigueur par la suite en janvier 89. Je trouvais ça intéressant, Félix, de parler de ça parce qu'on vient tout juste, il y a quelques jours, d'adopter une nouvelle entente avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc, c'était comme un peu d'actualité. Je voulais qu'on revienne un peu là-dessus.
Tout à fait. C'est la loi C-130 qui officialise le traité de libre-échange. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que historiquement, c'est les partis plus à gauche, les partis libéraux qui vont être pro-libre-échange et les partis plus de droite, comme le Parti conservateur, vont être plus protectionnistes. Donc, c'est ça. Le gouvernement canadien de Mulroney, qui est le Parti progressiste conservateur à l'époque, lui signe cette entente de libre-échange qui ouvre les frontières. Mais c'est une ouverture de frontières quand même limitée. Disons que c'est un beau problème pour les avocats.
OK.
Parce que justement, chaque élément, il y a une ouverture, mais il y a des sous-traités comme justement la boisson, ça va être mis de côté, ça va prendre... Ils vont l'ouvrir presque sur 10 ans. Je me souviens, même si j'étais pas très vieux, de comment les gens recevaient ça bizarre. C'est tout le temps, au niveau canadien, c'est tout le temps comme si on avait une perte d'autonomie au niveau des traités de libre-échange. Et on peut voir actuellement, avec ce qui se passe dans le lait, c'est exactement ce qui ressort. C'est vraiment comme si on perdait un peu l'essence du Canada. Et c'est ce qui avait été débattu durant la campagne électorale de Mulroney contre John Turner, qui avait remplacé Pierre-Éliott Trudeau, qui va nous dire « ça fait 120 ans qu'on se bat pour être le Canada, puis là, on laisse aller tout ça. »
On ouvre nos frontières, c'est ça, au marché américain.
Exactement. Okay. Puis ce traité-là va donner justement l'ALENA, qui lui va être...
Qui a suivi.
Qui va inclure l'ensemble de l'Amérique du Nord avec le Mexique.
Ça, c'est en quelle année, ça?
En 1994.
Parfait, OK.
Ça va être plus complexe, puisqu'on ouvre une grande zone comme ça, avec un pays qui est économiquement beaucoup plus faible, avec le Mexique. Ça apporte des problèmes, là, au niveau des... Parce qu'il y a beaucoup de produits qui vont être entrés. La production, les salaires minimums sont beaucoup plus beaux au Mexique.
Ça a donné lieu à des transferts d'entreprises beaucoup au Mexique pour de la fabrication.
Exactement. Ouais. Puis,
D'où vient cette sortie de, ben, après l'élection de Donald Trump de dire, ben là, il faut réajuster ça dans une nouvelle entente?
Ben, c'est ça. Quand le traité avait été signé, ça avait été signé sous le gouvernement Reagan aux États-Unis,
ouais.
Qui, lui, était extrêmement conservateur.
Oui, pourtant, oui, c'est vrai.
Ça me surprend beaucoup. Puis, Donald Trump, lui, vient de faire vraiment sa première entrée là, forte, on pourrait dire, en tant que président, c'est-à-dire imposer son protectionnisme. C'était ça son cheval de bataille. Il va à l'encontre de la tendance mondiale parce qu'il y a une ouverture des frontières avec les traités, avec l'Asie,
avec l'Europe, on le voit là,
exactement.
Avec le Canada.
Peut-être que c'est une perte d'identité aussi. Parce que regarde le Brexit en Angleterre, qui est la sortie de la communauté européenne, qui est très surprenante, là. Mais je ne veux pas trop aller dans ce sujet-là. Là.
Okay. Mais autre point, parce que c'est intéressant, est-ce que c'est... on parle de ces trois ententes-là, mais est-ce que c'est les premières ententes? Entre autres, quand on parle de l'accord de libre-échange, est-ce que c'était une première entente du genre ou dans l'histoire, il y en a déjà eu?
Eh bien, sous Wilfrid Laurier, avec le gouvernement Taft, le président Taft des États-Unis, en 1911, c'était le premier... vrai traité de libre-échange. C'était très sommaire. Disons qu'il y avait beaucoup moins de produits à l'époque qu'aujourd'hui. Et même si les États-Unis étaient déjà un très grand partenaire économique, c'était quand même pas ce que c'est aujourd'hui. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards. Là, on est à 80-90% de l'achat de notre production canadienne qui est vers les États-Unis. Donc,
c'est pas le même portrait. Okay. Mais quand même, 1911, il y avait déjà un début de... Ouais.
C'est ça, mais Wilfrid Laurier fait sa campagne électorale là-dessus. Mais les conservateurs, justement, de l'époque, montent aux barricades pour dire non, 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 nous ne perdrons pas la souveraineté canadienne dans ce libre-échange, nous devons garder. Et finalement, Wilfrid Laurier va perdre ses élections sur ce thème-là.
OK.
Est-ce que les États-Unis et le Canada ne sont qu'une extension territoriale l'un et l'autre? C'est la question. Moi, des fois, je me demande, quand je vois un pêcheur des provinces maritimes et un pêcheur du Massachusetts, et quand je vois un producteur d'automobiles de l'Ontario et un producteur d'automobiles de Détroit, je vois un Albertain dans le pétrole et un Texan dans le pétrole, et l'ouverture de la côte ouest, que ce soit en Colombie-Britannique ou en Californie, Est-ce que nous aurions fait les pays sur le mauvais sens quand nous avons découpé la carte de l'Amérique du Nord?
Oui, c'est un grand questionnement, mais quand même, on pourrait le soulever. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu... tu voulais pas revenir aussi sur un élément concernant Gaspé par rapport aux traités, aux ententes?
Bien, à l'époque, avant la Confédération canadienne, c'est ça, il va y avoir le port franc en 1860 qui est dans le même esprit. Il va avoir une autre place en Ontario dont le nom m'échappe, mais où il n'y a pas de frais de douane dans les exportations. À l'époque, je crois que notre ami M. Le Boutillier, John de son prénom, qui siégeait sur le... qui était au gouvernement, avait probablement travaillé très fort parce que ça lui permettait, comme il importait beaucoup, beaucoup de matériel, ça lui permettait de ne pas payer de frais de douane à Gaspé. Ça a duré seulement 5 ans. Ça a été sacrifié dans les traités pré-confédération vers 1867.
Donc, c'est vrai qu'on peut dire que ce port franc de Gaspé, ni plus ni moins, c'est un traité... De libre-échange, oui. C'était une zone franche de libre-échange, dans le fond.
Exactement, c'est mais vrai, ça s'appliquait à l'international. C'était encore plus grand c'est parce que justement, il y avait le consulat de l'Italie, le consulat du Portugal, l'Espagne qui était à Gaspé, les États-Unis.
Alors, donc, il y avait... tous ces pays-là bénéficiaient de cette zone, si on veut.
Exactement.
Wow! Hey, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Félix, d'être passé encore une fois cette semaine nous parler d'histoire. Puis à partir de 87 et de l'accord de libre-échange, on est revenu jusqu'à la zone franche à Gaspé. C'est bon? Merci.
C'est moi qui te remercie.